Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Numéro.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Johanna au micro et aujourd'hui, je t'emmène en Indonésie, plus précisément à Bali. Non, mais attention, moi je viens pas de parler du Bali du Sud avec les Instagrammeurs, influenceurs, non, non. Moi je te parle d'une traversée dans la jungle à pied de 40 jours sur un sentier qui n'existe sur aucun GPS. Je te parle de lieux où même les Balinais ne vont pas. Ouais, ouais, aujourd'hui je t'emmène dans un Bali authentique, empreint de traditions et de croyances, où l'on peut même, paraît-il, croiser des fantômes. Ouais, et c'est Linda Bortoleto qui vient nous raconter tout ça. Salut Linda, comment ça va ?
Salut Johanna, merci de me recevoir.
Grand plaisir, très très grand plaisir. Alors écoute, juste pour commencer, avant qu'on parle de ton voyage incroyable, extraordinaire, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots, savoir qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas, et nous parler brièvement de tes magnifiques précédentes expéditions ?
Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, depuis 13 ans maintenant, donc depuis 2011, enfin 12 ans même, je suis voyageuse, écrivaine, je suis également enseignante en yoga, tantra, yoga et méditation. Mais avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais officier dans l'armée de l'air et dans la gendarmerie jusqu'au grade de capitaine parce que, en fait, ce qui m'a toujours guidée, c'est l'action et l'aventure. Sauf qu'avant de vraiment trouver ma voie, bon, bah, j'ai pris une autre voie dans la société qui m'était proposée, qui est l'armée, où certes, il y avait de l'action, mais il y avait surtout une grosse hiérarchie et un cadre qui me restreignait trop. Et donc, il y a eu un déclic 2011. En fait, ça fait suite à la mort de mon père. Je largue tout, je démissionne. À l'époque, j'étais mariée, je divorce et je me lance dans mon aventure, l'aventure qui me correspond au-delà de toute frontière. Et à ce moment-là, je décide de partir vraiment à l'opposé de là où je me trouvais, parce que je voulais vraiment exploser tous les cadres. Donc, je pars en Sibérie et en Alaska. En Sibérie, je vis avec un peuple nomade éleveur de rennes, les Tchouktches, pendant plusieurs mois. L'Alaska que je traverse à vélo. Après, j'ai une grosse partie dans l'Himalaya où je vis avec des nonnes bouddhistes, je m'initie à la méditation, au yoga, à l'hindouisme. Je traverse le Tibet oriental à vélo où j'ai d'autres initiations dans des monastères. Donc là, c'est vraiment où il y a eu l'ouverture de ma voie spirituelle. Après, j'ai eu toute une partie Proche-Orient, Moyen-Orient avec Israël, la Palestine, la Turquie. Où là, il y a eu un gros coup d'arrêt à mes voyages parce que j'étais victime d'une agression extrêmement grave en Turquie. Et donc, reconstruction, mais finalement, qui m'a propulsée dans un autre voyage parce que moi qui suis une grande marcheuse, que tous les voyages que je fais, en fait, la plupart du temps, c'est soit en marchant ou soit parfois à vélo, je connais le pouvoir de guérisseur de la marche. Et donc, j'ai décidé de partir au Chili pour traverser la cordillère des Andes jusqu'en Patagonie. Et donc, cet événement en Turquie, il est quand même assez important à mentionner parce qu'évidemment, c'est quelque chose de pas très joyeux, mais en même temps, ça fait partie de ma vie. Mais c'est aussi ce qui m'amène en Indonésie parce que c'est une agression sexuelle que j'ai vécue. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur la transmission de ma lignée maternelle puisque ma mère est indonésienne. Je savais que ma mère elle-même avait été violée quand elle avait été adolescente. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 40 ans, je décide enfin de poser les pieds en Indonésie pour découvrir ma lignée maternelle. Donc en fait, il m'a fallu 40 ans pour, à un moment, à force de tourner autour du pot, si je puis dire, me dire bah, « je vais dans le pays qui constitue la moitié de ce que je suis, l'Indonésie ».
Oui, donc c'est ça. Donc en fait, c'est comme ça. C'est finalement un pays que tu n'avais jamais... bizarrement en fait envisagé après tous les pays incroyables voilà que tu as visité, comme tu as précisé, toujours à pied ou à vélo, donc des moyens de transport on pourrait dire aujourd'hui écologiques qui sont très très chouettes. Du coup tu étais avant-gardiste en fait et du coup voilà, tout ça t'amène effectivement donc en Indonésie. Mais alors pourquoi Bali précisément?
Alors Bali, le truc c'est que, alors ce qu'il faut savoir c'est que ma mère est originaire de Java, qui est l'île d'à côté. Parce que pour retracer le contexte, c'est vrai qu'il y en a qui croient encore que Bali c'est un pays à part entière. Ça pourrait, hein, mais Bali fait partie de ce grand archipel d'îles qu'on appelle l'Indonésie. Et en fait, comme depuis des années, je m'intéresse au yoga, à la méditation et j'enseigne aussi, j'avais entendu, Bali, c'est un peu un mythe, hein, tout le monde connaît Bali.
Oui, c'est ça le truc, c'est ça, c'est que justement, Bali, d'ailleurs, on a connu beaucoup Bali avec le livre Mange Priam, bientôt on connaîtra Bali avec le miroir de Bali.
Et en fait, moi je me dis, donc Bali, en fait, ce qui est drôle, c'est que l'Indonésie est un pays à majorité musulmane et Bali est la seule île qui est parmi toutes ces îles à majorité hindoue. Et donc, forcément, moi, ça m'a. Pour commencer, je me suis dit, ça m'interpelle, sachant qu'on en avait parlé en disant, oui, tu peux faire des éveils spontanés de Kundalini en allant dans les temples à Bali. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la Kundalini, c'est une sorte de supra-énergie qu'on a en nous. J'ai quand même, c'est tentant, quoi, quand tu pratiques le yoga depuis des années, tu fais, bon, allez, j'y vais. Et puis, ça me permettait aussi d'aborder, parce que c'est bien de vouloir creuser dans son histoire familiale, mais. Faut y aller en douceur, hein, parce que ce qu'on peut découvrir, c'est violent. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais quand même une résistance, que je savais, hein, que l'histoire de ma mère était quand même très lourde. Donc, je me suis dit, bon, on va commencer par Bali, puis après, on verra. Et donc, après, le Bali, sauf que, comme tu l'as dit en intro, Bali, c'est aussi connu pour tourisme de masse. Sauf que d'expérience, je sais très bien que si tu fais 2-3 km d'écart et que tu sors des grands axes, 2-3 heures de route par rapport à l'aéroport, tout de suite, tu vas trouver des endroits qui sont peu fréquentés, hein, même s'ils le sont toujours. C'est un peu comme si on restreignait la France à la Côte d'Azur, tu vois. Enfin, forcément, si tu vas un peu plus dans les terres, tu vas trouver une autre France. Bali, c'est pareil. D'où ce choix de traverser à pied, sauf que... aucun sentier, tu vois, il n'y a pas de chemin de Compostelle à Bali où tu peux suivre de A à Z, un petit chemin balisé, c'est cool. Bon, là, en fait, je suis partie avec ma carte satellite, mon intuition, et puis voilà, un peu de prière en disant, je resterai à pouvoir tracer ma voie dans un Bali authentique. C'est aussi un challenge, hein, savoir si ce Bali authentique existait encore, non fréquenté, non touristique, et le fait est que oui.
Toi, tu t'es dit, donc, t'as choisi, tu te dis, ok, allez, c'est bon, Bali, je vais aller voir si vraiment il y a un Bali authentique, et puis on verra après voir si je vais à Java ou pas en fonction de mon ressenti. Donc, comment est-ce que tu l'as préparé? Comment ça s'est passé avant de partir? Tu t'es dit, je pars, t'avais prévu 40 jours, tu te dis, je pars un mois, deux mois, trois mois, vu que je planifie mon voyage ou pas. Enfin, voilà, est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça s'est passé là-bas?
Ouais, alors ça, c'est une grande question pour moi parce que, en général, quand je pars, je sais jamais combien de temps exactement je pars. Je sais que je pars au moins tous les voyages que je fais depuis 2011, donc depuis 12 ans. Je sais que je pars pendant plusieurs mois. Après, des fois, je rentre au bout de 3 mois. Il y a des fois, je suis rentrée au bout de 6 mois. Et là, en l'occurrence, je suis partie 9 mois. Donc, je savais que je partais pour longtemps parce que, bon, ça faisait aussi une réflexion et je vis avec mon compagnon et c'est vrai qu'on avait ce projet de carrément de nous installer là-bas, mais on savait pas encore quand exactement. Donc, okay. Du coup, je pars en me disant que je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Enfin, vraiment, donc je pars avec un peu tout dans mes valises.
Génial.
Je pars surtout avec mes affaires de rando, ça c'est la base, hein, tu vois, en l'occurrence j'ai pas pris de tente mais un hamac, tout ça, j'avais tout préparé pour la marche parce que ça c'était sûr, puis en plus tu vois j'avais pris des affaires normales entre guillemets, tu vois, des robes, des sandales.
Oui, genre tu t'es dit si jamais mon mec vient me rejoindre en Indonésie, au moins voilà, j'ai des affaires et tout ça, et puis peut-être on s'installe. En fait tu t'es parti en te disant ok, je fais ma marche, on voit comment ça se passe et peut-être tu me rejoins.
Ouais, exactement, c'est carrément ça, quoi.
Hyper open, trop bien.
Parce que lui, en plus, avec son boulot, on savait pas trop comment ça allait se passer, donc c'était vraiment, l'inconnu, quoi.
Tout est possible, quoi.
Ouais, tout est possible, et en plus, tu vois, ce que souvent on me demande par rapport à l'écriture, parce que depuis que je voyage aussi, ça, j'ai oublié de préciser, j'écris des livres, et en fait, quand je pars, ce qui est drôle, c'est que... Je dis, bon, certes, il y a mon histoire familiale, mais d'abord, je commence par Bali, ce que je disais. Et je dis à mon éditeur, bon, je vais écrire un petit livre cool sur Bali, un petit livre léger, tu sais, sur l'île paradisiaque, les traditions spirituelles, les petites fleurs, enfin, tout est joli, tout est mignon. Enfin, c'est Bali, hein, Bali, c'est vraiment que ça, quoi. Et donc, tu vois, donc je pars comme ça. Après, je sais que je suis quelqu'un, de toute façon, je suis complètement ouverte à l'inconnu et à l'inattendu. Hein. Ma vie, elle est construite comme ça, hein, sur l'inattendu, je pourrais pas aimer l'aventure si j'aimais pas l'inconnu, quoi. Et donc, le truc, après, pour la marche, pour revenir à ta question, c'est pareil, j'étudie les cartes, j'essaye quand même de trouver, de voir s'il y a des gens qui ont laissé des tracés GPS ou des choses comme ça. En fait, je ne trouve rien. Les cartes des sentiers de rando à Bali, ça n'existe pas, sauf des trucs qui font une demi-heure, enfin, tu vois, 2-3 kilomètres. Enfin, c'est vraiment...
Il n'y a pas de rando version balinée, quoi.
Ouais, complètement, quoi. Ou le touriste qui a une journée, tu vois même pas, qui a une petite après-midi, va faire le tour des rizières, c'est cool, quoi.
C'est ça.
Très bien, attention, hein, je pas le tour des rizières, mais...
Voilà, tu vois, c'était pas parti pour une journée, quoi. Tu t'es pas dit, voilà, je... Non. T'as pris ton hamac, tu t'es dit, allez, je dors dehors et tout ça. Donc, tu cherches.
Ouais, je trouve rien, à part... Alors, ce qui m'a... Et déjà, l'étude des cartes, elle est intéressante parce que quand tu prends la carte de Bali, on va dire, pour simplifier, pour visualiser, c'est une sorte de gros cercle. Donc, le sud, c'est ultra fréquenté. Les surfeurs, les Australiens, les Chinois, les expats, les nomades digitaux, les Instagrammeurs, tout ça, c'est dans le sud.
On n'a rien contre eux, hein, d'ailleurs. Voilà, coucou pour ceux qui écouteraient peut-être de loin l'épisode. On vous adore, il n'y a pas de souci. Mais là, ce n'est pas ce que tu es venu chercher. Hein.
Oui, complètement.
Donc, voilà, après, on leur fait un petit bisou.
je comprends, parce qu'il y a... tout ce qui est confort de vie extraordinaire. Hein. Les restos, enfin moi, pour avoir testé les restos, alors je suis pas allée dans le sud, mais à Ubud, je suis végétarienne. Honnêtement, l'offre, enfin bon, alors, française, hein, grande amoureuse de la bouffe, l'offre végétarienne, elle est juste dingue. Donc, si t'es végétarien et que c'est vrai que t'aimes la douceur de vivre, les belles plages, enfin je comprends parfaitement que tu restes dans le sud et puis c'est pas loin de l'aéroport, etc. Mais comme tu le dis, moi c'était une autre approche que j'avais. Et donc, en fait, en plus, et puis il y a plein de routes. Hein. La circulation à Bali, elle est quand même, faut le savoir, elle est assez terrible. Et dans le sud, c'est juste l'enfer. Et quand tu prends la carte, par contre, si tu remontes dans la moitié nord, déjà, c'est beaucoup moins fréquenté. Et si tu prends, donc, on va dire en haut à gauche, pour ceux qui ne sont pas très géographiques, ce qui correspond au nord-ouest, là, il y a une grosse tache verte où il n'y a rien. Et en fait, c'est la jungle. Alors moi, forcément, je me dis, bon, on va aller voir par là. Donc, je fixe mon point de départ tout en haut à gauche de Bali. Et après, je me dis, je verrai sur place à quoi ça ressemble. Je pose des questions et c'est comme ça que, en fait, ma traversée de Bali, où je suis partie de ce tout au bout à gauche, donc au nord-ouest, jusqu'au volcan sacré, le plus sacré de Bali, qui s'appelle le volcan Agung, jour après jour, et je te dirais même heure après heure presque, c'était improvisé. Je savais pas où j'allais.
Ok, ouais, ce qui amène à des situations assez folles, extraordinaires. Est-ce que tu peux du coup nous raconter, donc t'arrives, tu t'es dit, là, cette petite tache verte où il n'y a rien, il n'y a pas de sentier, il y a la jungle, c'est là où je veux aller, là où tout le monde te dit, mais n'importe quoi en fait, on peut pas rentrer là-dedans, toi t'as fait si, moi j'y vais. Tu peux nous raconter du coup là, comment ça s'est passé, parce que t'arrives, tu débarques avec ton sac, du coup qui pèse à peu près combien de kilos?
Alors le sac, si t'enlèves la nourriture et l'eau, il fait à peu près 11 kilos. Tu rajoutes nourriture et eau, ouais, tu peux aller jusqu'à 16 kilos, quoi. Ça dépend combien de jours tu prévois.
Donc là, tu arrives, tu es une femme seule, tu parles pas la langue, il faut quand même, voilà, très peu, ouais. Un petit peu. Et tu arrives au milieu et tu te pointes devant, là, en fait, cette jungle où il n'y a personne, pas de sentier, tu dis, je vais là. Tu peux nous raconter un peu, là, alors comment c'est? Tu peux nous dire, l'atmosphère, comment tu t'es sentie, qu'est-ce qu'il y avait autour de toi, voilà, nous décrire un petit peu, nous emmener un petit peu là avec toi dans cette première nuit-journée.
Alors en fait, la première journée, le truc, c'est la clé quand on voyage comme ça, l'inconnu, c'est souvent on me demande justement comment tu trouves tes infos, tes itinéraires, etc. C'est de demander aux locaux. C'est pas sur Internet. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, on a énormément d'infos sur Internet, mais les vraies infos, les infos justement que tu vas pas trouver sur Internet, c'est sur le terrain, c'est les locaux, c'est ceux qui vivent sur place. Et en fait, donc quand tu prends la carte, donc tout au bout à gauche, donc avant de rentrer dans cette fameuse tache verte qui est la jungle, où a priori aucun sentier de défini, un tracé GPS, il y a une petite réserve où en fait je rencontre des gardiens. Et en fait, bon, déjà, je me bats pour pouvoir traverser la réserve à pied. Enfin, je me bats symboliquement, quoi. Je voulais pas me laisser passer. Il dit, mais non, on n'a pas le droit de dormir. Puis il dit, mais t'es toute seule, machin. Enfin, bon, bref, l'extraterrestre qui arrive, quoi, en fait, c'est ça.
Oui, parce que je dois dire que, du coup, dans le Nord, qui est, pour préciser un petit pour les gens qui, effectivement, connaissent que le Bali du Sud, donc le Nord, il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes, en fait, voire presque pas. Et encore moins dans ce coin-là, qui est une réserve naturelle, qui, du coup, où les gens, en fait, passent juste la journée, en fait. Ouais. Les gens rentrent pas, c'est ça?
Complètement, ouais. Il y a beaucoup de balinais qui viennent faire des cérémonies, parce qu'il y a des temples hein, dans cette réserve naturelle. Après, des touristes, en fait, ils proposent des sortes de rando, mais les touristes peuvent venir pour la journée, pour 2-3 heures, avec un guide, parce que comme c'est une réserve protégée, pour expliquer pourquoi, il y a un oiseau qui s'appelle l'étourneau de Rothschild, c'est des tout petits oiseaux blancs super mignons, ils sont en voie de disparition et c'est pour ça que c'est protégé, et c'est pour ça qu'en fait, ils voulaient pas me laisser y aller seule. Donc en fait, j'insiste, et je dis, mais si, je suis sûre, je peux faire le tour. Finalement, il me colle un gardien, quoi. Donc en fait, qui va me suivre, enfin deux gardiens, il y en a un qui me suit la première journée et un autre qui me suit la deuxième journée, et je précise, à moto, alors que moi, je marchais.
Donc ils te disent, ok, on te laisse rentrer, tu peux dormir là-bas.
Avec, en fait. Dans la cabane des gardiens, en fait, je dormais.
Dans la cabane des gardiens. Et là, du coup, t'as pas peur, enfin, t'es plutôt détendu, tu dis, ok, c'est cool, je dors dans la cabane du gardien, puis on verra, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, tout de suite, bon, moi, ça a toujours été d'utiliser le ressenti, mais tout de suite, j'ai senti, il n'y avait pas de quiproquo ou quoi que ce soit, enfin, les gens, et ça va être une généralité, que ce soit à Bali ou à Java, où j'irai plus tard, un accueil extraordinaire, une bienveillance, une curiosité et un grand respect. Même le fait que je sois une femme, enfin, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit, tu vois. Et au contraire, quoi, c'était le premier gardien, c'était mon gardien favori qui s'appelle Mehmet, qui est un diminutif de Mohamed. Il faut savoir que l'ouest de Bali a des villages musulmans, donc Mohamed, lui, il est musulman. Et grand sourire, il baragouinait trois mots d'anglais. Il arrive, il me file du poulet épicé. Il me montre des vidéos. Il dit oui, regarde, il y a eu un python hier qui a traversé. Donc il m'a dit, un gros python qui traverse. Après, on va se promener un peu autour de sa cabane. Il monte, il y a une race de singes particulière qui sont des singes noirs. Il y a des sangliers qui viennent chercher s'il y a à bouffer autour de sa cabane. Enfin, tout de suite, ça a été extraordinaire. Et ce Mehmet, enfin, tu vois, c'est mon premier contact avec le terrain, si je puis dire. Et c'était génial. Et en fait, comme il parlait pas très bien anglais, en fait, il fait venir le chef de la réserve. Et lui, qui parlait très bien anglais. Et finalement, pour répondre à ta question de la jungle, donc pareil, j'insiste en me disant, bah oui, je veux continuer, la jungle, machin. Et c'est lui qui me donne la clé. Il me dit, ah, bah, il y a 2 ans, moi, j'ai des amis qui ont traversé ce bout de jungle, ils sont allés, donc ils ont fait un bout du nord vers le sud, ça leur avait pris une journée de marche, sauf que quand je lui montre la carte, et c'est là que je me rends compte, bah, tu peux montrer d'où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont arrivés, et lui il sait pas, donc il me dit, oh bah c'est à peu près là, et en fait il dit, oui, puis tu vas arriver au lac au sud, il me dit, mais tu vas trouver quoi, tu suis le sentier, machin, je fais, bon bah ok, en fait il n'en savait rien, parce que lui il était pas allé. Et après, je m'en foutais, je me disais, finalement, j'ai l'information comme quoi c'est possible, comme quoi il peut y avoir des sentiers. Et en fait, c'est comme ça que je construis au fur et à mesure. Donc, ça fait 2 jours plus tard, j'arrive au bord du le village qui est au plus proche de la jungle. Je demande à des paysans. Les paysans, alors pareil, ils avaient dit, ah, mais non, c'est pas possible, ah, mais non, il y a personne qui fait ça. Puis il y en a un, il dit, ah, mais peut-être qu'il y a un petit sentier par là. Et donc, ils m'amènent. Donc, après, eux, ils sont tous à mobylette ou en scooter à Bali. Hein. Qui m'amène avec en scooter à l'entrée de la jungle, et puis là il me dit, bon bah c'est tout droit, et sauf que toi t'arrives, mais il y a plein de bifurcations, en fait le tout droit il n'existe pas à Bali, t'arrives sur un sentier et tout d'un coup bah il y a une fourche qui part à droite, une fourche qui part à gauche, et en fait il y a un moment effectivement j'arrive dans la jungle, après j'avais mon GPS hein, ça c'est obligatoire, et donc la jungle c'est extraordinaire parce que t'as tout qui se referme hein, t'es dans un cocon vert. Tu vois plus rien derrière, plus rien devant, plus en haut, et t'entends tout par contre, t'entends les singes, t'entends des insectes, t'entends les feuilles qui bougent.
Mais justement, attends, parce que quand même, moi j'adore le petit passage de le gardien arrive, il me montre une petite vidéo d'un python, il est trop content, et toi t'es genre, bah trop bien, je vais m'enfoncer dans la jungle, oh des petits pitons, c'est génial, les petits singes, les trucs, juste, ok. Alors, pour une personne normalement constituée. Alors, comment tu gères ça? Tu te dis, parce que toi, tu dors à la belle étoile, en fait, avec ton hamac, ouais. C'est ça? Ouais. Comment t'appréhendes, là, justement, ces serpents? Est-ce que t'en as croisé? Ou les animaux? Enfin, voilà, ces oiseaux aussi en particulier. C'est ça que tu peux me raconter un petit peu?
Ben, en fait, ouais, donc il y a la vidéo du python, alors qu'il était dans la réserve, il m'a même pas dit qu'il avait dans la jungle, mais tu as le fameux Harry, le chef de la réserve, qui me donne l'info, Alors lui, il me sort, alors avec Google, tu vois, il me dit, bon, bah alors attention, si tu crois ce serpent-là, il me fait toute la liste des serpents vénéneux, tu sais, les serpents verts fluo, les bleus, les machins. Et alors, je prenais des captures d'écran en me disant, bon, bah comme ça, moi, je saurais si j'en vois un. Donc, évidemment, enfin, tu vois, je suis pas surhumaine, j'ai peur. En plus, la jungle, enfin, tu vois, pour expliquer aux auditeurs, j'ai marché dans plein d'endroits. J'ai marché dans des déserts, dans des montagnes, dans de la toundra, mais souvent, c'était des endroits... plutôt sec et froid, où finalement, c'est araignée, serpent, en fait, il n'y a pas, quoi. Et la jungle, donc on est dans un milieu humide, très humide, chaud, et puis donc avec toute cette faune, hein, tous ces insectes, puis ces reptiles, etc. Et bien sûr, j'ai peur, j'ai très peur des serpents. Sauf que, bon, bah, à un moment, j'ai envie de le faire, tu vois. Donc, mon désir dépasse ma peur, en fait. C'est pas que j'ai pas peur, c'est juste que souvent, tu sais, on me dit, oui, comment ne pas avoir peur ? Je sais pas, c'est pas ne pas avoir peur, c'est à un moment y aller, malgré sa peur, quoi. Et c'est ce que je fais. Et bien sûr, après, du coup, bah, t'es en mode ultra-vigilance. Et tu vois, c'est ce que je dis dans la jungle, ce qui est dingue, c'est que tu ne vois rien, mais tu entends tout. Enfin, à part du vert partout, des plantes qui se chevauchent. Il y avait des plantes horribles dans la jungle.
Comment ? Genre, par exemple, décris-moi une plante.
Justement, en fait, c'est une sorte de ronce, mais j'ai appelé ça une ronce hameçon dans mon bouquin, parce qu'en fait, les crochets sont tournés vers le haut. Donc, en fait, bah, c'est un hameçon, donc ça te crochette, et si t'avances, ça te déchire carrément la peau, quoi. Alors, je te passe les vêtements déchirés, les sacs déchirés. Mais en fait, du coup, bah, tu saignes, quoi. Tu saignes de partout, quoi. Et en fait, t'es obligé de reculer parce que tu peux pas avancer. Enfin, c'est la galère. Bon, t'as des fougères géantes. Tout est géant. Tout est géant dans la jungle. Franchement, c'est dingue. Les arbres sont géants. Les feuilles sont géantes. Les fougères, elles font la taille, c'est la taille humaine. À un moment, je traverse une zone un peu dégagée. Il y a des feuilles mortes géantes au sol. T'as l'impression de marcher sur des chips, tu sais, ça craque, en fait, sous les pieds, quoi. C'est fou. Et quand je dis que tu entends tout, donc t'entends des hurlements ou des, tu sais pas trop si c'est des hurlements de singes ou d'oiseaux, à un moment, j'entends comme un sifflement. Et là, je sursaute. Je suis persuadée que c'est un serpent, tu vois. Sauf qu'en fait, t'as des tuyaux d'irrigation, parce que t'as un système millénaire d'irrigation à Bali, qui part des montagnes et qui va jusque dans les rizières, et donc qui traverse la jungle. Et à un moment, mais vraiment, j'ai le cœur qui sort de la poitrine tellement j'ai peur, parce que j'entends psst, psst. Et là, je me dis, putain, le serpent, quoi. Je vais m'attaquer, le truc. Et en fait, je me retourne et je vois un cylindre noir. Et en fait, le fameux serpent noir, c'est juste un tuyau qui fuit, quoi.
C'est très, très
sur le coup.
Oui.
C'est fou, quoi. C'est finalement le plus gros danger, c'est pas la réalité, c'est ton imagination. Quand tu ne vois pas, en fait, t'imagines des choses dingues, alors que finalement, c'est rien du tout, quoi.
Oui, c'est ça. C'est en fait, tu es conditionné, finalement, tu conditionnes un peu tous tes sens à être hyper attentif. Et donc, il fait que parfois, cette situation-là, c'est très drôle, le coup du tuyau noir ou du pinceau. Ouais. Hein. Et alors, par contre, en revanche, t'as vraiment comme vu, je crois que t'avais vu un scorpion aussi, par contre.
Ouais, ça c'était. Alors du coup, tu vois, il y a eu cette première traversée où je m'y prends quand même à deux fois. La première fois, je n'arrive pas à trouver le sentier, je fais demi-tour, je repars. Le lendemain, j'y vais en mode warrior, je vais trouver. Bon bah ouais, j'ai trouvé finalement. En fait, j'ai pas trouvé de sentier. J'ai suivi la rivière, j'ai descendu la rivière, tu vois, pour sortir de la jungle. Le truc, quand je suis arrivée de l'autre côté de la montagne, parce qu'en fait, tu traverses la jungle, c'est une jungle montagneuse, hein, donc ça grimpe et ça redescend. Il y a les mecs là-bas dans les villages, ils disent « Putain, mais moi, je me promène dans la forêt, je me perds 4 heures. Fais comment t'as fait pour traverser la jungle ?» Des balinés, hein, je parle.
Ah, oui, bien sûr. Bah oui, là, on
parle. Des balinés, je suis arrivée de l'autre côté, ils m'ont pris pour...
Ils t'ont fait une petite cérémonie derrière, quoi.
Ah, mais complètement.
C'est fou.
Les mecs, ils disent « Ah, on va venir. » Alors, ils m'ont emmené dans tous les endroits sacrés parce qu'ils me disaient « Putain, c'est bon, je suis l'aventurière mystique de Bali. La nana, elle sort de la jungle, elle contacte les esprits, elle fait « Allez, c'est bon, on va dans tous les endroits sacrés. » C'était fou, quoi. Ils m'ont fait un accueil de l'autre côté, c'était dingue. Ouais. Et après, le coup du scorpion, donc je traverse la jungle, cette fois-ci dans l'autre sens, où là, on passe 3 jours... Ouais, c'est ça, on a fait 2 nuits, donc 3 jours dans la jungle. Et là, je suis avec 2 balinés qui ont complètement insisté pour venir. Pour 2 raisons, parce que ils avaient peur en disant « Oui, mais si elle se perd, ça va être notre faute. » Parce que tu sais, elle a beaucoup la responsabilité des... Là-bas, ils vivent en communauté, tu vois. Mm-hmm. C'est pas individualiste comme chez nous. Donc, si toi, tu fais un truc, ils se sentent concernés. Donc, du coup, ils m'ont collé deux balinais avec moi. Je fais bon, mais c'est pas... après, c'est pas grave parce que je voyais les traditions. Parce qu'en plus, la jungle que je traversais, c'était un endroit sacré. Donc, il fallait faire des offrandes, tout ça, pour pas offusquer les esprits. Comme tu dis, tu vois, là-bas.
Ça, ouais. Donc, ça, tu... du coup, toute cette première partie là où... Mais là où ils t'ont accompagné en moto, mais après, t'étais toute seule, comme tu racontais justement, où tu t'es perdue, t'es revenue et t'as continué. Là, effectivement, donc t'as une tradition en fait d'offrande que toi tu fais, c'est ça?
Oui. Oui, en plus, enfin, que je fais spontanément, mais en fait, qui est une des traditions balinaises, c'est-à-dire qu'il y a des endroits clés où ils passent, où, bien sûr, ils croient aux divinités, ils croient aux dieux, mais ils croient aussi aux esprits de la nature. Donc souvent, à Bali, tu vas voir des arbres sacrés, on les reconnaît, c'est simple, hein, les arbres, ils sont sacrés parce qu'ils sont entourés de tissus, ils mettent un tissu un peu comme pour les habiller, c'est un peu comme l'équivalent d'une jupe, de différentes couleurs, et en fait ils mettent des paniers d'offrandes qu'ils appellent des chanang sari. Ça, c'est très caractéristique de Bali, je trouve, en plus que c'est très très beau, quoi. C'est un petit panier en palmier, en feuilles de palmier tressées, où ils mettent des fleurs de différentes couleurs, ils rajoutent de l'encens, ils font 2-3 prières, ils récitent des mantras pour rendre honneur aux esprits de l'arbre, de la nature, etc. Et en fait, ça, je le fais quand je te dis les deux balinais qui m'accompagnent dans l'autre partie de la jungle. Eux, ils étaient à pied. Là, on était à pied. Ils n'étaient plus à moto. Pour le coup, ils avaient pris des... Alors, c'est carrément là, le mec, d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle comme étant... C'est Tarzan, quoi. Déjà, physiquement, je trouvais qu'il avait les cheveux mi-longs, tout ça. Il ne parlait pas, mais jamais, quoi. Il était... Sa façon de se déplacer dans la jungle, d'observer... était dingue, quoi. Enfin, pour ces mecs-là, pour moi, c'était une leçon de survie dans la jungle, quoi. Hein, une maîtrise de son environnement. Et quand il y a eu le fameux scorpion qui est arrivé, un scorpion, un gros scorpion noir, hein, qui fait plus grand qu'une main, tu vois, en taille. À un moment, donc, on était assis par terre sur une bâche pour le campement pour la nuit. Et le scorpion arrive. Alors moi, je sursaute, je me lève en disant « Putain, le scorpion !» Et l'autre, il est assis tranquille. Le scorpion bute contre sa hanche. Il prend juste un bâton, il le dégage et tranquille, quoi. Sans émotion. Et je me dis « Putain,
toute détente. »
Une leçon de zen, quoi. C'était fou. Hein.
Et en fait, donc, du coup, ça, c'est, ça se passe. Donc, tu es de l'autre côté, donc toujours dans la partie jungle. Là, tu es accompagné par deux balinés. En fait, finalement... qui se sont proposés d'eux-mêmes pour t'accompagner. Toi, tu voulais partir toute seule, et puis on te dit non, mais nous, on t'accompagne, et voilà, et dont un qui, effectivement, semble être en communion. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, c'est quoi ton ressenti? Tu te dis, ah, trop cool, je me sens plus en sécurité, ou à ce moment-là, ça t'embête un peu, tu te dis, bon, quand même, je voulais marcher toute seule, quoi?
Ouais, au départ, je suis contrariée parce que j'aime marcher seule. Hein. C'est vrai que ce que j'ai pas précisé, je voyage seule, j'aime... Parce que pour moi, c'est vraiment un corps à corps avec la nature, une plongée dans la nature et du coup, une plongée en moi. Après, je l'ai pris, tu vois, aussi, j'étais là pour découvrir la culture qui est un peu la mienne, hein, même si ma mère vient de l'île d'à côté, ça reste la culture indonésienne. Donc, je me suis dit, tu vois, j'ai un peu calmé mon truc, tu vois, l'ego occidental de, ouais, je vais être à tout prix seule. Je me suis dit, non, mais en fait, ça va te permettre de comprendre aussi la culture. Donc, du coup, j'ai accueilli les deux comme en me disant bon bah c'est pas grave, ça va être sympa, tu vas apprendre d'autres choses et du coup ça s'est très bien passé, quoi. C'était bien. C'est vrai que c'est moins challengeant parce que du coup j'avais plus qu'à suivre, hein. Le mec il connaissait, enfin le fameux Tarzan, lui il connaissait le sentier. Mais après, bah toi, ça te permet de davantage observer, ça te permet aussi d'aller plus vite parce que t'es pas là en train de chercher ton chemin tous les quarts d'heure. Donc voilà, et c'était intéressant quand je disais tout à l'heure, quand j'ai vu la dévotion que les deux avaient en faisant les offrandes à des endroits clés de la jungle, où il y a des temples cachés en fait dans la jungle, des sortes de c'est des petits temples, hein, c'est juste des colonnes en fait, j'appelle ça les temples colonnes. Où on met un petit chanang sari, donc un petit panier d'offrandes, ils récitent 2-3 mantras et c'est tout. Mais ça permet vraiment d'honorer, parce que nous, tu vois, occidentaux, on se dit, bon, ben voilà, c'est plus le challenge, je traverse la jungle. Et là, finalement, moi, spontanément, je l'avais déjà fait la première fois, mais là, je me suis dit, bah oui, en fait, t'es pas chez toi, t'es chez eux. Et chez eux, ça inclut les esprits, les ancêtres. Et moi, je crois en ça, hein, je crois en l'invisible. Donc, je me suis dit, bah, c'est bien de voir ça, parce que derrière, tu vois, bah, quelque part, partout où je vais aller, je vais reproduire ce que eux ont fait, tu vois, je vais toujours avoir des offrandes avec moi, ou si j'en ai pas, parce que j'en ai pas dans mon sac, je vais au moins réciter des mantras pour respecter les lieux qui m'accueillent. Et ça, je trouve que c'est ultra important quand on voyage, c'est qu'on n'est pas chez nous, donc ces gens-là nous accueillent, en plus nous accueillent à bras et à cœur ouvert, donc la moindre des choses, c'est de respecter leur culture.
Ouais, donc finalement, c'est une belle leçon en fait d'humilité, quoi, de dire bah oui, moi je suis partie avec une idée dans mon truc et finalement j'accueille, j'ouvre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, bah, eux derrière vont te montrer finalement les voies, la voie en fait à suivre sur, par rapport aux traditions, et qui vont t'ouvrir en fait plein de portes aussi derrière. Et donc finalement, un super beau commencement. C'est un beau cadeau, quoi. Et ce qui est assez dingue, c'est que en lisant dans ton livre, on voit à chaque fois que c'est les gens qui viennent te chercher, qui viennent à toi, et c'est incroyable dans toutes les situations comment toutes ces rencontres viennent à chaque fois te chercher, te proposer des choses, et voilà. Donc à chaque fois je me suis dit, ah, c'est très très drôle, parce que tous les moments où en fait t'as envie d'être un peu toute seule, on vient te chercher. Et en même temps, ça vient te challenger sur des choses. Je pense par exemple au soir là sur la crémation, enfin voilà, oui. Où tu te mets toute seule et que en fait ça, tu peux peut-être un peu raconter. Et après le moment extraordinaire où en fait tu sais pas, tu avais besoin d'eau et que en fait à chaque fois que tu as besoin d'eau, tu fais une demande et il y a quelqu'un qui vient et qui t'apporte de l'eau, enfin, improbable, sorti de nulle part. Voilà, je sais pas si tu peux justement raconter comment ces rencontres en fait finalement sont venus nourrir, ou en fait j'adore ce fait de dire je pars dans un état d'esprit, je veux être seule, et finalement en fait je ne suis jamais seule parce que ouais. Voilà, je suis toujours entourée. Tu peux raconter un peu justement comment ces rencontres sont venues un peu nourrir ton voyage?
Ouais, alors en plus c'est d'autant plus vrai à Bali, parce que Bali, il faut quand même se dire que c'est une petite île, c'est le premier point, mais le deuxième point, c'est que ce sont des gens extrêmement curieux. Donc du coup t'as deux facteurs qui font que tu, quand à un moment je l'écris, je fais à Bali on est jamais longtemps seul, et c'est vrai, c'est qu'à un moment tu veux juste te poser, donc tu poses tes fesses à un endroit tranquille, il y en a un qui va sortir, tu sais même pas d'où, quoi. Et puis du coup après gentil, tu vois, ils vont te poser des questions, ils vont te filer, moi ils me filaient à manger, mais tout le temps, quoi, tout le temps, même après, tu vois, après ma traversée à Bali, alors là, j'étais en sac à dos, mais après, je me suis installée pour écrire le bouquin. Je faisais mon footing, tu vois. Donc, je faisais juste un footing d'une heure et demie. Les mecs, ils voyaient que je courais. Ils étaient en train de manger du riz. Ils venaient, viens manger avec nous. Et là, je dis, mais non, là, je suis en train de courir. Donc, c'est vraiment une caractéristique de Bali où les gens sont curieux. Ils sont vraiment très curieux. Et on pourrait dire, ah bah oui... ça, c'est important de préciser, parce qu'ils savent qu'on est des touristes, hein, ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas idiots, mais j'ai pas senti que c'était pour l'argent ou pour avoir quelque chose en retour. C'est vraiment, au contraire, moi, on m'offrait à un moment, on m'offre une chambre d'hôtel où on t'offre à manger, on t'offre de l'eau, et les gens, ils savent que tu vas pas forcément revenir. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment senti cette spontanéité dans la curiosité et dans le fait qu'ils t'invitent, tu vois. Après, peut-être qu'ils disent, bon, tu vas revenir et puis tu vas leur faire venir des touristes, hein, peut-être.
Mais peu importe. Il y a spontanément un geste de pure sincérité et générosité en fait, de leur part, et aussi de cette curiosité de cette femme seule qui voyage en sac à dos et qui dit qu'elle veut marcher, quoi, dans la jungle et tout ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire pour toi quel a été ton plus gros défi de cette marche dans la jungle et de cette marche toute seule?
Alors ce qui a été le plus dur, le premier truc, c'est la chaleur. C'est la première fois que je souffre vraiment de la chaleur combinée à l'humidité.
Combien? Parce que du coup, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, il fait combien de degrés à ce moment-là? Toi, tu es à quel mois? Et un taux d'humidité à combien? Combien de pourcents, là?
Alors, à Bali, en fait, il faut se dire, il y a 80-90% de taux d'humidité, quoi. Donc, en fait, on transpire tout le temps. Enfin, déjà, sans rien faire, quand on arrive à Bali, on transpire. Alors, en plus, imaginez marcher avec un sac... ce qui est bien, c'est que, et ça c'est ce que j'aime profondément à Bali, c'est qu'il y a une végétation très dense, très luxuriante. Donc, on trouve de l'ombre quasiment tout le temps. Mais malgré tout, il fait extrêmement chaud. Et ça a été vraiment ma difficulté. Et puis aussi, imaginez que comme je restais la plupart du temps dans le centre de Bali, Bali est une île, comme toutes les îles d'Indonésie d'ailleurs, île volcanique et montagneuse, donc il y a très peu de plat. Donc soit ça monte, soit ça descend. Et avoir du plat à Bali, c'est extrêmement rare, sauf quand on longe, à un moment je vais carrément longer la mer, parce que bah, déjà c'est plus simple, j'ai juste qu'à suivre la plage, tu vois, j'ai pas posé de questions si je vais à droite ou à gauche, et c'est plat. Et là, pour le coup, j'avais plus d'ombre, mais je pouvais me baigner dans l'eau, tout ça. J'ai vraiment beaucoup souffert de la chaleur, au point qu'à un moment, je crois que je suis à peu près à 30 jours de marche, j'ai un truc qui se déclenche, qu'on appelle, c'est un phénomène, alors je ne savais pas ce que c'était, ce qu'on appelle la bourbouille.
Ok. Ça ressemble un peu à bourbouille, on ne sait pas trop, voilà, mais non, bourbouille, ok.
C'est un nom drôle, mais d'un phénomène beaucoup moins drôle. En fait, je commence à avoir des démangeaisons ça commence au niveau des pieds, des chevilles, des hanches, du ventre. Je crois que j'avais même au niveau des bras, même du pubis, tu vois. À un moment, j'ai le corps en feu et j'ai des gros boutons qui apparaissent. Donc, au départ, c'est des plaques et à un moment, c'est des pustules, quoi. Tu sais, les boutons avec de l'eau dedans, donc c'est très, très moche. Et quand je parle de boutons, c'est des centaines. Hein. C'était horrible.
Oh là là là.
Et puis, à un moment, je pense que je fais une allergie. Je me demande si c'est une bestiole parce que, tu vois, je dormais dans mon hamac. Hein. Donc, je mettais mon hamac un peu n'importe où. Là où quand je trouvais deux arbres, tu vois, je posais mon hamac. Et en fait, à un moment, j'en suis quasi en pleurs, quoi, tellement c'est horrible. Enfin, t'imagines...
C'est douloureux, du coup, j'imagine.
Comment ?
C'est douloureux, en plus.
C'est douloureux, tu te grattes tout le temps, et du coup, ça te fatigue, tu vois, ça puise ton énergie. Et en fait, il y a une médecin que je trouve dans un village paumé, elle me file des antihistaminiques, mais ça passait pas. Ce qu'elle me file, qui m'a soulagée, c'est tout con, hein, c'était du talc mentholé. Donc je me barbouillais de talc, donc j'avais les jambes toutes blanches et les hanches aussi, parce que bah, j'avais tout ça au niveau des hanches. Et en fait, c'est le lendemain, donc là, je fonce directement vers la mer. Enfin, tu vois, intuitivement, instinctivement, je me dis, je dois aller vers la mer. Et donc, je me pose dans le premier hôtel que je trouve, je fais des recherches sur Internet et je l'associe bouton, sueur. Et en fait, c'est là que je tombe sur la bourbouille.
Le fameux bourbouille.
Voilà, la fameuse bourbouille. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est un truc que soit les bébés, ils ont à cause des plis, en fait, et de la sueur. Mais c'est un truc aussi que les mecs, quand ils étaient au Vietnam, ils avaient, à force de marcher dans la chaleur et dans l'humidité. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que tu transpires tellement et aussi tu te laves, parce que je me lavais peu. Parce que, voilà, les conditions d'hygiène...
Oui, parce que là, du coup, là, ça arrive au bout du 30e jour. Donc là, ça fait 30 jours que tu es en train de marcher, que tu prends, en fait, finalement, pas vraiment de douche.
Pas souvent, quoi. Je veux pas tous les jours.
Dans la rivière, j'imagine. Enfin, voilà, quand il y en a, quand tu la trouves.
Ouais, quand il y a des rivières ou quand je trouve des fois, je dormais dans des chambres d'hôtes. Hein, donc, je prenais des douches. Mais chez les gens, souvent, les gens m'hébergeaient. C'est très sommaire, tu vois, c'est pas des douches, en fait, tu sais, ils ont un baquet d'eau avec une coupelle en plastique et y a pas d'eau chaude, enfin, c'est hyper, tu te rinces, donc c'est vraiment sommaire, et puis c'est la marche, hein, donc tu changes pas forcément de chaussettes.
Oui, parce que, pour préciser, pour les gens, à peu près, t'as combien d'heures de marche par jour ?
Quand je marchais, alors à Bali, il fait demi-tour, hein, il fait nuit à 18h, 18h30, donc je marchais en gros de 7h du mat à 5h, quoi. Ça fait 10h de, ouais, 9h de marche.
Petite 9h de marche, comme ça. Voilà. Et ça, tous les jours pendant 40 jours.
Ça. Ouais, ouais. Après, des fois, je faisais des journées de pause, évidemment. Hein.
Okay. Oui, t'as pas enchaîné 40 jours d'affilée. Il y a des moments, du coup, t'étais effectivement dans la jungle, des moments près de la mer. Et des moments où tu pouvais aller en chambre d'hôte ou chez l'habitant.
Ouais,
t'as beaucoup
d'habitants
chez l'habitant aussi. Et, un moyen incroyable où tu dormais avec ton hamac. Ça, tu peux raconter un petit peu comment tu trouvais les endroits, comment ça se passait, comment tu disais, OK, ce soir, je dors avec mon hamac. Voilà, tu peux nous
raconter. C'est un moment quand tu vois que il n'y aura rien, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Donc, du coup, je voyais sur la carte, je me dis, il commence à faire nuit. Le hamac, c'est très bien. Alors, pourquoi j'ai choisi le hamac et pas la tente ? Parce que justement, climat super humide et je sais qu'il y avait des serpents, donc j'avais pas trop envie de dormir au sol. Bon, même si finalement les serpents, il y en a, hein, mais on en croise peu souvent. Enfin, moi, j'en ai pas vu très très souvent. Il y en a, mais bon, par mesure
quand même.
Et c'est vrai que dans, même les journaux, les mecs qui traversent l'Amazonie, tout ça, en général, ils privilégient le hamac. Donc, du coup, c'était le pourquoi. Donc, j'avais acheté un hamac spécial jungle avec une moustiquaire et puis un truc, parce que j'ai eu de la pluie aussi, hein, donc un truc pour recouvrir le dessus du hamac. Et en fait, le hamac, c'est super pratique. Hein, ça se monte vraiment en 5 minutes. Hein, c'est vraiment très pratique à monter. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver deux arbres qui sont distants, d'une bonne distance, tu vois, pas trop écartés, mais pas trop serrés. Après, pour dormir, honnêtement, c'est pas le moyen le plus confortable, hein, parce que tu peux pas te mettre sur le ventre, parce que tu sais, c'est en forme de banane, hein, donc tu peux pas te tourner. Tes affaires, t'es obligé de les poser à même le sol. Donc, des fois, je sortais mon sac, j'avais des grenouilles, des limaces, des sangsues sur le sac.
Voilà.
Ou ton sac, il est... Enfin, bon, bref. Parce que des fois, j'ai eu de la pluie. Mais bon, voilà, après, c'est... Voilà, enfin, des fois, je trouvais les deux arbres suspendus au-dessus du vide. Donc, t'as les pieds plus haut que la tête. Enfin, bon, bref, tu dors pas très, très bien dans un hamac.
Tu dors pas très bien. En revanche, ça t'offre un truc assez extraordinaire, c'est que du coup, tu es toute seule dans la jungle, avec du coup... la nature qui t'enveloppe, comme tu racontes. Moi, j'ai vu que ça te donne quand même du coup une espèce de connexion, là, ce pourquoi t'es venue à ce moment-là, en fait, une connexion à la nature.
Ah oui.
Un paysage extraordinaire. Ouais. Est-ce que tu pourrais raconter un peu les nuits, je pense une où tu vois les étoiles et tout ça, est-ce que tu pourrais raconter un petit peu, une nuit peut-être magique en hamac.
Il y a une nuit extraordinaire que j'ai passée donc en plein dans la jungle. Alors déjà, il y a eu un phénomène assez bizarre, c'est que il y avait aucun nuage. Et ça, j'en suis sûre et certaine puisque je voyais les étoiles. Ou alors il y avait des nuages mais éloignés. Et il commence à pleuvoir. Enfin, pleuvoir de, tu sais, comme une sorte de bruine.
Ouais, des petits crachats quoi, petites brumes du matin en fait. Du matin quoi.
Très très fine et en fait je me dis que la jungle transpire la nuit tout simplement, donc du coup tu reçois les gouttes d'eau des arbres qui transpirent avec l'humidité et donc là t'es là, t'as pas mis ta protection, bon, t'as le truc chiant, est-ce que je sors ma protection ou pas, mais après ce soir là ce qui était extraordinaire outre ce phénomène assez étrange de transpiration de la jungle, c'est les lucioles. À un moment je vois des centaines de lucioles. Je commence à voir une lumière et après, en fait, elles arrivent toutes en même temps, deux, trois, et qui volent autour de toi. Et tu vois, elles clignotent, elles ne sont pas illuminées de façon continue. Il y en a une qui clignote, ça s'éteint, et puis l'autre qui arrive. Et j'ai tout ça, quoi. J'ai tout ça tout autour de moi. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de silence dans la jungle. Il y a toujours il y a les insectes, il y a des hiboux, des chouettes, je ne sais pas. Mais... tout ça, quand tu parlais, c'est très enveloppant et il y a un côté extraordinaire. Quoi.
C'est incroyable, les lucioles. Enfin, moi, j'avoue, c'est un de mes rêves de me dire, je regarde. Donc là, tu es dans la jungle, il y a des centaines de lucioles qui, du coup, sont en fait au-dessus de toi, elles sont à côté. Ouais. Donc là, c'est noir complet, tu as les étoiles et tu as des petites lucioles qui sont
qui dansent.
Et ça, waouh, c'est fou,
ça a duré facilement 20 minutes, quoi, parce que j'étais là, alors j'essayais de filmer un peu, pour avoir, mais de toute façon, ça donnait rien, mais t'es là, puis je bougeais pas, quoi, je regardais, c'était extraordinaire, quoi, t'as l'impression d'être, quand je parle d'extraordinaire, t'as l'impression d'être sur une autre planète, t'es complètement, puis tu vois, souvent, on me demande cette sensation de solitude, d'isolement. Mais moi, je ne l'ai pas. C'est vrai que quand tu es dans la nature, au contraire, j'ai une sensation de plénitude. Je n'ai pas du tout de sensation de solitude parce que je suis avec les éléments, avec les arbres, avec la faune, quoi. La faune, la flore, les insectes. Mais il y a aussi le vent. Là, c'était les lucioles. Tu as les sons. T'es avec un tout, quoi. Et tu vois, moi, je suis croyante et souvent, on dit, comment ce rapport à Dieu, au divin, comment on peut l'avoir. Mais moi, je l'ai eu avant tout, c'est dans cette nature, quoi. C'est là que tu reçois une présence par-delà le visible, en fait. Il y a une présence par-delà le visible et c'est ça qui te donne accès à cette plénitude.
Oui, là, à ce moment-là, quand il y a cette scène avec les lucioles, là, tu peux avoir les... Il n'y a plus rien qui existe, là. Les bruits, la chaleur, tout ça, c'est dissipé. Et je pense que ce moment-là vaut derrière peut-être les heures compliquées, ouais, peut-être, de marche et tout ça, quoi. C'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et je pense que c'est pour ces moments-là, en tout cas, qu'on... Voilà, qu'on se dépasse, en fait, finalement.
Ouais.
Et après, est-ce qu'il y a un autre moment comme ça auquel tu penses, où tu te dis, waouh, ouais, ça, c'est aussi incroyable, c'est génial, je me sens vraiment bien.
Ah, après, il y a eu, à Bali, c'était aussi, parce que bon, mine de rien, alors bien sûr, il y a eu ces moments de jungle extraordinaires, hein, et j'en suis même venue à aimer la jungle.
Parce que tu ne l'aimais pas, en fait, de base, tu te dis, je vais dans la jungle, mais je n'aime pas la jungle. Linda, d'accord. Ok, très bien.
J'avais cette peur, tu vois, ce que je disais, et j'aimais pas forcément. Enfin, je savais pas, tu vois. J'avais peur de la jungle. J'avais peur de la jungle, clairement, parce que la jungle, on sent bien, ça grouille. C'est pas, ouais, t'as peur, quoi, parce que tu vois rien. Et en fait, je suis devenue complètement addict à la jungle, quoi. Y compris dans ce côté désagréable de l'humidité. Et ça, c'est tellement envoûtant. Et en fait, à Bali, tu vois, ce que j'ai ressenti aussi, mais aussi à Java à un moment, quand je te parlais de cette croyance aux fantômes, aux esprits qu'ils ont. Quoi.
Justement. Alors, les fantômes.
Et c'est ça, en fait, à un moment, tu vois, t'es complètement contaminé par la croyance que les Balinais, ils croient vraiment, quoi. Et à force d'en parler, mais ils t'en parlent, comme toi, t'as vu le boulanger ce matin, bah eux, ils disent, ah bah tiens, j'ai vu... Un touyoul, enfin, parce qu'on a déjà senti ça.
Pour expliquer aux gens ce que c'est, du coup, un touyoul ou quoi, enfin, pour expliquer, en fait, les Balinais sont très croyants et ils pensent effectivement qu'il y a beaucoup de fantômes, d'esprits et tout ça. Donc, touyoul, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ?
Alors, le touyoul, en plus, moi, je le connais parce que ma mère en avait déjà parlé. Le touyoul, c'est... tout le monde le connaît sans savoir que c'est un touyoul. C'est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, après, Tolkien s'est forcément inspiré de ce personnage, parce qu'en fait, il est réputé pour voler. Et en fait, quand des fois, il y a des choses qui disparaissent dans les villages, ils se disent, putain, ça se trouve, c'est le touyoul qui est arrivé. Il y a même des gens qui ont eu j'ai vu des captures d'écran du touyoul.
On t'a montré les vidéos, ok.
En fait, c'est comme ça. J'ai vu une capture d'écran, voilà, une photo, je sais pas, faite avec une caméra de vidéosurveillance, je sais pas trop quoi, d'un touyoul. Et c'est là que j'ai vu. Je fais, mais le truc qui ressemble à Gollum. Et parce que ils savaient pas. Et c'est en faisant des recherches sur Internet, je tape touyoul Gollum et effectivement, il y a un lien entre le touyoul et le Gollum. Une fois, j'arrive dans un village et le balinais dit « Ah oui, mais si, il y a le touyoul qui est venu, il y a plusieurs villageois qui l'ont vu. » Et je dis « Mais c'est vrai, c'est pas vrai. » Bah, c'est ce que tout le monde dit. Tu vois, ils ne remettent pas en cause la parole des gens, quoi. Donc, c'est assez drôle. Et en fait, tu vois, quand je disais que ça te contamine, c'est que bah, des fois, moi, je retournais dans la nature, dans la forêt ou dans les rizières, peu importe. Et en fait, tu commences à voir les choses autrement, quoi. Tu commences à être plus vigilante et des fois, ouais, il y a une fois, j'arrive, tu vois, en parlant d'extraordinaire, j'arrive dans une forêt, j'ai l'impression qu'elle prend vie, quoi. Tout d'un coup, il y a la brume qui arrive, il y avait des sortes de pins, j'appelle ça les pins sorciers dans mon livre, parce que c'est des pins, mais avec des longues épines, pas comme les pins du sud, où c'est des épines courtes, assez rigides. Là, c'est des sortes d'épines longues et très souples, et il y a le vent qui arrive, et tout se met à bouger comme ça. Et j'avais vraiment l'impression que j'étais pas la bienvenue, qu'il y avait quelque chose qui me poussait hors du lieu. Et en fait, bah, je me suis mise à courir parce que j'étais pas bien, quoi. J'avais peur, quoi. Mais vraiment, j'avais, tu sais, comme dans les films d'horreur.
Ouais, tu t'es dit, non, je vais pas y aller, quoi. Je suis pas welcome. Donc,
ouais.
À l'inverse, quand t'as été dans la réserve aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'on parlait de ces oiseaux, du coup, les étrennes de Rothschild, c'est ça?
Ouais,
en fait, ce qui est fou, c'est que t'en as vu plein, finalement, en fait, c'est ça? Un matin, tu t'es réveillé, t'en as vu.
Ouais, parce qu'en fait, c'est la deuxième cabane des gardiens. Ils ont mis exprès, ils ont plein de petits réservoirs d'eau, ils leur mettent des graines, tout ça, pour pouvoir les nourrir et pour pouvoir les observer. Donc, du coup, ils étaient tous réunis le matin, là. C'était extraordinaire. Il y en avait une trentaine. C'est des tout petits oiseaux, donc...
Ils sont petits, tu peux décrire comment ils sont ?
Bah, ils sont petits, ouais, je pense qu'ils font, 10-15 centimètres maximum, okay. Quoi. Ils sont tout blancs, mais blancs immaculés avec... je crois qu'ils ont l'œil entouré de noir ou de bleu. Et donc, tu vois, les petits oiseaux, ils se baignent. Bon, c'est des oiseaux, ils sont marrants, quoi. Tu sais, ils se trempent dans l'eau, ils se costumes, ils jouent les uns avec les autres. Ouais, ouais, c'est... Il y en aurait plus que... Donc, ils sont, donc c'est une espèce endémique, hein, et dans cette réserve, apparemment, il y en aurait plus que 200-250. C'est pour ça qu'ils font, ils sont très vigilants.
Ouais, donc c'est assez aussi extraordinaire d'en avoir vu, du coup, autant voilà, sur cette petite zone.
Ouais, complètement.
Ne va, à part Linda. et du coup, est-ce que tu dirais que c'est ça, toi, qui a retenu, tu parlais justement de cette façon-là de t'ouvrir à cette partie un peu invisible ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est, tu dirais que c'est ça que tu retiens de ton voyage ou qu'est-ce que c'est ça qui est venu, ce qui a changé en fait en toi ou voilà, il y a d'autres choses
Non, alors après, moi, ce qui a été... tu vois, là, donc c'est vrai qu'on parle du voyage en lui-même et pour revenir à ma mère, en fait, ce qui est fou... Et c'est ce que je vais découvrir de toute façon après dans mes investigations qui se poursuivent, hein, après la marche. C'est que, tu vois, au fur et à mesure de la marche, il y a plein de trucs qui me ramènent à ma mère. Et c'est ça, en fait, où se commence à se créer le changement intérieur. C'est que, certes, j'étais à Bali, mais de toute façon, bah, comme j'ai dit, hein, Bali, c'est l'Indonésie. Donc, ce que je mange me rappelle mon enfance. Donc, ce que ma mère me préparait, la façon, les expressions que les Balinais ont, c'est des expressions de ma mère. Quand ils commencent à me parler des fantômes, moi, ça me rappelle que ma mère, bah, elle est complètement obsédée par les fantômes. Hein. Ma mère, tu la feras jamais rester à côté d'un cimetière parce qu'elle a peur des fantômes. La première chose qu'elle va regarder, oui, c'est s'il n'y a pas des esprits qui traînent. Et moi, je me moquais toujours d'elle. Mais en même temps, quand je vois les Balinais, en fait, je vois ma mère. Et en fait, l'autre truc aussi qui me ramène à ma mère, c'est à un moment, je discute avec une femme, une Balinaise, c'est la capacité des femmes, parce que les Balinaises, la condition des femmes à Bali est meilleure que dans les autres îles d'Indonésie. Malgré tout, tu as ce côté des femmes de garder le silence sur leurs souffrances. Et à un moment, il y a une femme qui me parle de ça, elle me dit « Mais tu sais, nous, on ne parle pas de notre souffrance, je t'en parle parce que tu es une étrangère. Mmh. » Mais elle fait, mais même avec leurs amis, elle dit « On garde tout ça dans notre cœur. » Et en fait, je sais que moi, dans ma famille, et pour le coup, c'est valable pour ma mère et pour mon père, il y a cette loi du silence qui est extrêmement forte, où on ne dit pas les choses, on n'exprime pas ses émotions, que ce soit nos douleurs, mais également l'amour, en fait. Et moi, j'ai souffert, en fait, de ce manque d'amour, de ce manque d'expression.
Ouais,
parce qu'à un moment, bah, tu le ressens pas forcément, hein, si on te le dit pas. Et en fait, tu vois, à travers ma marche à Bali, tout ça, c'est, enfin, l'histoire et le caractère de ma mère, finalement, s'est reconstitué. Jusqu'à un moment où je me rends compte, et là, je me rends compte quand je vais à Java, je pars à la ville de Java, et tout ce que je découvre de la spiritualité balinaise, des traditions balinaises qui sont extrêmement vivantes, hein, donc la spiritualité hindoue balinaise, finalement, à Java, on me dit que le Java du passé, c'est le Bali du présent. Donc, ce qui existe aujourd'hui à Bali, c'est ce qu'il y avait avant à Java, avant que l'islam prenne une proportion très importante à Java. En fait, toutes les traditions hindoues balinaises, c'était les traditions de Java. Et pour moi, ça fait énormément de sens parce que finalement, ce que je vois à Bali, c'est les traditions de mes ancêtres. Donc du coup, Bali, en fait, quand je dis bah, par hasard, je vais à Bali, bah, finalement, ce n'était pas finalement un choix anodin parce que ça me permet, tout ce que je découvre à Bali me permet de comprendre mes ancêtres de Java, et peut-être d'ailleurs qu'ils étaient à Bali, hein, j'en sais rien, et de comprendre finalement mon héritage le plus ancien, tu vois, par-delà bah, les années où aujourd'hui, effectivement, les traditions ont disparu, puisque toute ma famille est musulmane à Java. Mais malgré ça, tu vois, ils gardent des choses qui sont très proches de l'hindouisme et du bouddhisme, parce que c'est un mix entre le bouddhisme et l'hindouisme. Et même ma mère a gardé ça sans le savoir, sauf que eux ne s'en rendent pas compte. Et moi, en fait, j'ai pu reconstituer finalement mon puzzle familial grâce à Bali et grâce à ce qu'on va me dire après à Java.
C'est incroyable. Donc finalement, en fait, tu pars à Bali en te disant « Oui, de manière anodine, je pars faire une petite marche à la Linda, 10 heures par jour sur 40 jours, comme ça. » Et puis finalement, en fait, tu reconnectes à tes ancêtres qui te ramènent à toi.
Ouais.
Et donc ça, c'est super beau, en fait.
Tu vois, et souvent on se demande, tu vois, pourquoi faire le travail d'investigation familiale. Alors, il n'y a aucune obligation. À un moment, c'est juste si on en ressent le besoin, bah, il faut y aller, quoi. Moi, ça a été mon traumatisme, mon agression qui a été le déclencheur. Et comme tu dis, c'est puissant à un moment de se dire, finalement, il suffit, tu vois, il suffit un moment juste de se laisser guider et de se dire, il n'y a pas de mauvais choix. Peut-être, je suis allée à Bali, je ne savais pas vraiment pourquoi, par l'hindouisme, mais finalement, il n'y a pas de hasard dans nos choix. Si on se laisse vraiment guider par ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, tout va s'imbriquer à un moment donné. On ne va pas comprendre pourquoi tout de suite, mais après coup.
Après coup, ouais.
Et ouais, ça a été extrêmement puissant de me dire, finalement, tout mon cheminement spirituel prend sens quand je pose les pieds à Bali, quoi, en Indonésie. Pourquoi, finalement, j'étudie l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme, tout ça, c'est ce que j'ai fait pendant mes 10 années de voyage avant d'arriver en Indonésie, tu vois. Mais en fait, c'est parce que mes ancêtres étaient bouddhistes, hindouistes, animistes, soufis même, c'est le poète Rumi en Turquie, donc... Et j'ai couru tout ça en Indonésie, quoi. Donc, finalement, tout mon cheminement depuis toutes ces années, sans le savoir, je marche sur les traces de mes ancêtres. Et ça, c'est super fort de s'en rendre compte, quoi.
Tout s'aligne. Et du coup, ouais. Qu'est-ce que tu... S'il y a des gens qui, là... Enfin, voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, bah, moi aussi, j'aimerais bien aller partir toute seule, que ce soit une femme ou un homme. Alors, encore plus, bah, du coup, quand on est une femme qui est... Voilà, qui se disent qu'on soit en couple ou pas, parce que du coup je rappelle que t'es en couple et que t'es, voilà, et c'est super parce que c'est aussi possible, c'est parce qu'on est en couple que voilà, on est obligé de pas partir en solo. Quel conseil tu pourrais dire, voilà, pour les gens qui n'ont jamais franchi ce pas-là de partir toute seule, qui ont peut-être envie de découvrir cette façon de voyager, c'est-à-dire à pied, voilà, mais qui ont, voilà, un peu cette appréhension, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Ben, à un moment, il faut arrêter de ruminer, il faut arrêter de se poser des questions, parce que des questions et des doutes et des peurs, il y en aura toujours. Et il faut juste y aller. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Alors, bien sûr, hein, je veux dire, j'en suis moi-même témoin, il y a des risques. Mais je veux dire, le risque qu'on a d'une femme qui voyage seule, c'est le même risque qu'on a d'une femme qui se promène dans les rues de Paris. Il n'est pas différent, ce risque. Le risque, c'est d'être une femme. Voilà, point. C'est tout, quoi. Et c'est une réalité, hein. Le risque, c'est d'être une femme en ce monde, et on est,
oui, c'est sûr.
Potentiellement, on peut attirer des malades, mais c'est pas, ce risque, il est pas plus élevé parce qu'on voyage seul. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête. C'est que, à un moment, et c'est pour ça que j'ai continué de voyager. Pour moi, alors bien sûr, il y a des endroits où je n'irai plus, qui sont des endroits où je sais que la condition de la femme est défavorisée, quoi, où le regard sur la femme, n'est pas bienveillant, donc je n'irai plus dans ces régions-là. Mais après, enfin, il y en a plein d'autres, hein, des régions où et moi, ça, j'insiste, hein, 99,99% des rencontres que je fais quand je voyage, c'est la curiosité, c'est l'envie d'aider, c'est l'envie de, au contraire, même davantage de nous inviter, de, voilà, et en fait, on a ce lien aussi en tant que femme, on peut créer plus d'intimité avec les femmes, aller voir ce qui se passe dans les maisons, avec les enfants. Et c'est super fort. Donc, à un moment, il faut juste se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Le seul mauvais choix, c'est de rester sur ses doutes. Mais quand il y a un désir, quand le désir, si le désir, il est là, évidemment, si on n'a pas envie,
oui,
si on ne se pose pas, quoi. Mais si à un moment, on se dit, ah, ça me fait rêver, ça me donne envie, parce que bah, des personnes qui m'écouteraient, ou quand on regarde un film, et moi, c'est ça, hein, je me dis, putain, j'ai envie de le faire, ça me fait rêver, ça. Et ben, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas rester sur « ça me fait rêver ». En fait, il faut y aller. Il n'y a pas de mauvais choix. Ça, c'est super important. On va toujours apprendre de son expérience.
C'est super. Voilà. Donc, toutes les personnes qui entendent. Après, bien sûr, évidemment, on part avec de la conscience sur ce qu'on va faire. Évidemment que si on va dans la jungle ou que ce soit, toi, tu pars quand même avec un GPS. Évidemment, on respecte la culture sur place. Voilà, des choses qui sont de base, mais que c'est bien de rappeler, en fait, de se dire « bah voilà, on essaie de se renseigner un maximum sur les traditions pour les respecter. Et puis après, voilà, de se laisser guider comme tu fais, l'intuition, et de ne pas avoir peur. Et voilà, et comme tu as fait, quoi. Donc ça, c'est franchement, voilà, j'espère que ça va inspirer plus d'un. Pour la marche, là, tu disais la difficulté, bon, effectivement, la chaleur et tout ça, mais finalement, après, le corps s'habitue, ça va, ça, c'est pas... Si les gens qui veulent partir, qu'ils disent, allez, je vais partir dans la jungle aussi.
ouais, après, c'est vrai que, tu vois, tu parlais de préparation, il y a une préparation, okay. Hein, c'est important. En plus, moi, tu vois, j'organise des stages, donc je vois bien quand une personne, elle a jamais marché Tout d'un coup, même 2 jours de marche, ça peut être compliqué. Donc, ce qui est important, c'est pour faire une longue marche, et notamment quand on est seul, hein, c'est un moment d'avoir un minimum de préparation physique. Et comment on se prépare à marcher ? Bah, c'est en marchant, quoi. Alors, moi, je fais de la course à pied en plus, mais en fait, voilà, dès qu'on peut marcher le week-end, faire des randonnées de plus en plus longues, de plus en plus longues en termes d'heures, mais en termes de jours aussi, ça, c'est important, quoi. Je sais plus pourquoi.
Oui, parce que du coup, ce qu'on disait, c'est que s'il y a des gens qui disent, bah voilà, moi aussi j'ai envie d'expérimenter le voyage à pied, mais effectivement, ne pas partir comme ça, peut-être avoir une certaine préparation un peu physique aussi.
Ouais. Avoir l'expérience. Et puis aussi, il faut. Enfin, tu vois, moi, je veux dire, comme je dis, hein, ça fait. Je voyage depuis 2011 seul, mais avant de partir en Sibérie, en Alaska. Quand je travaillais, tu vois, quand j'étais en vacances, j'ai fait mes premiers trekking au Népal, j'avais 20 ans, je faisais de la rando quand j'étais ado, puis j'étais dans l'armée, hein, donc j'avais une préparation quand même.
Mais là, vous dire que Linda, c'est genre personne, moi j'ai appris il y a pas longtemps que tu nous as fait 35 marathons en 2 mois, voilà. Ça, c'est
oui,
Linda.
Oui, j'ai créé un post,
bon, voilà, donc après, une petite marche de 10 heures par jour, pour elle, c'est pas grand-chose, mais...
voilà. Non, mais... Il faut bien sûr, je veux pas dire attention, hein, la marche, c'est l'avantage, c'est que c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de faire 35 marathons comme j'ai pu le faire. Mais à un moment, il faut, parce que le problème de la marche, c'est les articulations. Il faut avoir confiance en son corps, connaître ses limites, ça c'est super important. Connaître ses capacités, c'est bien, mais aussi connaître ses limites, donc se dire à un moment, stop, je me repose, j'arrête, ou peut-être je fais demi-tour. Ça c'est super important. Et puis savoir si on aime ça aussi, parce que ça c'est con à dire, mais à un moment se dire est-ce que je prends du plaisir à marcher, quoi.
Et donc, c'est ça. Non mais c'est hyper important, parce que aussi justement enlever le côté, il y a le côté challenge évidemment, mais de se dire en fait faut que ça reste un plaisir avant tout, et que si à un moment donné mon corps en peut plus, ou je sais pas, je sens plus, et pas de pousser en disant bah oui je sens ça comme un échec. Non, c'est une expérience, c'est de dire ok je m'écoute, et avant tout c'est un plaisir, parce qu'on est là, voilà. Dans le plaisir de paysage, de rencontres et de voyage, quoi, avant tout. Donc ça, c'est hyper important de le rappeler, et moi je trouve ça vraiment chouette que tu le rappelles. Écoute, on arrive vers la fin de ce magnifique podcast. Alors moi, j'ai envie de poser encore plein de questions, mais il y a une petite tradition dans le podcast qui sont 2 questions, notamment une petite question assez science-fiction, qui est que si je te donnais les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un seul moment de cette aventure, qu'est-ce que tu choisirais?
Je crois que, ouais, c'est, tu vois, cette nuit que je raconte avec les Lucioles, parce que ça, c'était vraiment, et la jungle qui transpire, et c'est, il y avait un côté extraordinaire, et ouais, j'aimerais revivre ça, quoi. Ça, c'était génial.
Trop bien, ouais, avec toute cette luciole-là, voilà.
Des lucioles.
Que tu décris d'ailleurs dans le livre. Si tu devais résumer ce voyage, donc l'Indonésie et Bali, en une citation, un mantra, ce serait quoi?
Ouais, ce voyage, c'est l'alliance du visible et de l'invisible.
C'est génial. Écoute, franchement, Linda, merci infiniment vraiment pour ta présence. On a vraiment envie encore de discuter des heures de tous ces voyages, de tous ces voyages et ce voyage incroyable. Il y a ton livre, Le Miroir de Bali, qui raconte un peu plus aussi tout ça en détail, où tu décris bien les choses. Donc pour les gens qui veulent le livre, je mettrai les liens, et aussi tu as partagé pas mal de photos et vidéos aussi sur ton compte Instagram et tout ça. Donc voilà, donc s'il y a des personnes qui veulent aller voir ça, je mettrai tous les liens, il ne faudra pas hésiter. Et s'il y a des gens, s'il y a des influenceurs qui sont dans le sud de Bali, n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos. Voilà. Et n'hésitez pas, vous pouvez maintenant aller dans le nord. Voilà, on pense à vous. Et en tout cas, franchement, merci infiniment, Linda. Et puis, s'il y a des marcheurs aussi là qui sont dans la jungle, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. On pense fort à vous. On vous envoie plein de love. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Merci beaucoup, Linda.
Merci beaucoup, Johanna.
Suksuma.
Ouais, Suksuma.